Hier, pendant qu'on parlait de Cuba avec le professeur d'actualité du Cégep de Jonquière, Éric Arsenault, là, on s'est mis à avoir des textos de gens qui disent, effectivement, de ce temps-ci, Cuba, c'est pas fréquentable. La COVID, c'est terrible, et l'appauvrissement du peuple à Cuba, avec le changement de régime, les Castro ont largué le régime, enfin, ils ont passé le relais à quelqu'un qui, visiblement, n'a pas l'aura qu'ils avaient, ni la main mise sur le pays qu'ils avaient. Il y a une espèce de criminalité qui est en train de se développer à Cuba qui est très, très inquiétante. Oui. Alors que c'est une destination privilégiée des Québécois pour aller...
se détendre normalement et vivre le rêve un peu.
Oui, mais se promener aussi à La Havane. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont allés à Cuba. Moi, je n'y ai jamais été, là, mais qui trouvaient que La Havane était une belle ville avec beaucoup de charme, etc. Et hier, il a commencé à y avoir des histoires d'horreur qui nous ont été racontées sur 25226. Anne-Sophie a pris la balle au bon et elle a appelé quelqu'un qui arrive de Cuba, si j'ai bien compris, oui. Et qui a vécu là une mésaventure épouvantable.
Quelqu'un, premièrement, sa tante nous a écrit, nous a dit ça n'a pas de bon sens ce qu'elle a vécu. Donc, je lui ai parlé ce matin, Claudia Gagné et son mari, qui ont décidé d'aller dans un tout-inclus à Cuba une semaine, la semaine du 18 au 25 juillet. Donc, elle vient juste de revenir. Ils arrivent le dimanche soir, le 18, à Varadero. En arrivant, bien sûr, il y a un test COVID à faire. Tout est beau. Lundi, une très belle journée. Et lundi soir, ils reviennent de la plage, rentrent dans la chambre d'hôtel et c'est là que ça commence à se corser. On va écouter un extrait de Claudia Gagné qui nous explique sa mésaventure. Puis après, je vais pouvoir vous rajouter des petits détails sur l'histoire.
Ça frappe à la porte, mais vraiment cogné très, très fort. Et là, on ouvre la porte. Il y a deux gars, dont un autre, trois gars, deux en avant, un troisième en arrière. Un qui dit, ben vous êtes positif. OK. Là, vous devez venir à l'hôpital. On doit donner des médicaments. Vous pouvez pas rester ici. Fait que là, j'ai dit non, non, non. Moi, je vais pas à l'hôpital. Est-ce que je peux emmener mon mari? Si jamais je partais, il dit non, non. Lui, il peut pas venir. Fait que j'ai dit non. Moi, je refuse tout ça. Avez-vous une preuve que je suis positive? Parce que moi, au Québec, si je suis positive, m'avoir une preuve. Il dit non, non, on n'a pas de preuve, tout ça. Fait que là, j'ai fermé la porte, ils sont partis. Ils sont revenus une demi-heure plus tard en disant l'ambulance s'en vient, vous devez partir, blablabla. Bla, bla. J'ai dit non, je pars pas. Fait qu'on a fermé la porte, le soir a terminé comme ça. Mardi matin, l'infirmière est arrivée à notre porte en disant qu'on devait refaire un test COVID dans notre chambre. Et à partir du lundi soir, la troisième personne qui était là était gardien de sécurité pour nous. Et ils nous surveillaient. On n'avait plus le droit de sortir de la chambre. Mais il faisait 38 degrés plein soleil. Pas le droit à la piscine, pas le droit à la plage. Mercredi matin, 9h, le téléphone sonne. C'est l'infirmière. Je suis positive. Et là, j'ai le droit absolument à être expulsée de l'hôtel. Et je ne peux pas rester là. Mon mari ne peut pas venir avec moi. Mon mari est toujours en isolation dans la chambre. Et là, ils appellent l'ambulance. J'ai pas le droit de partir. J'ai pas le choix de partir en ambulance. Là, j'ai pas besoin de vous dire que je broille ma vie. Finalement, je pars, l'ambulance arrive et j'ai pas le choix de partir. Et là, le cauchemar commence. Là, ils m'emmènent à l'hôpital, ils font une radiographie des poumons, ils me font un autre test COVID, ils me font payer l'ambulance, ça me coûte 90 $ américains. Là, ils me ressortent de l'hôpital, j'attends dehors sur une petite chaise. L'autre côté, ils sortent d'une autre porte, ils sortent quatre filles qui parlent québécois. Elle dit, moi, ça m'a coûté 65 $ l'autre bord. Elle dit, c'est un vrai racket, c'est rien que de la merde. Elle dit, il n'y a pas personne ici qui a payé la même affaire. Elle dit, là, t'as pas fini, là. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Elle dit, nous, on a laissé 1 000 $ ici dans 24 ans à quatre filles. Il m'emmène dans un hôtel minable, là, vraiment un moins 2 étoiles. Là. Il m'amène là. La clôture, elle a 6 pieds de haut. C'est barré à cadenas. Là, le gars qui est à côté de moi, il lâche un whack à quelqu'un qui vient de débarrer ça. Il débarre le cadenas, il ouvre la clôture, il rebarre ça en arrière de moi. Et là, je suis toute seule toujours. Et je pleure toujours ma vie. Là, je rentre là-dedans. Il monte dans un deuxième étage. Il m'enferme dans une chambre qui barre pas. J'ai pas de téléphone. J'ai pas accès à rien. J'ai un lit, un petit drap et une bouteille d'eau. Mais l'hôtel était la place. C'est des anciens hôtels, en fait, qui sont fermés. Il y a 4 hôtels à Cuba qui sont fermés, qui sont devenus des hôpitaux COVID. Exactement, c'est ça. Fait que là, je reste là 24 heures. Ils viennent 2 fois me voir prendre la température, 1 fois 2 heures, 1 fois 9 heures le soir. Ils nous nourrissent, mais à l'extérieur, il y a une table, à l'extérieur de notre chambre, dans le corridor, il y a une petite table, puis ils mettent les repas. Quand c'est le temps du repas, ils mettent ça là. mais c'est pas mangeable, hein, c'est Cuba, fait que c'est du riz puis de la viande dure comme de la semelle de botte puis c'est ça. J'ai jamais été malade. Nous, on est, moi, je travaille dans le domaine de la santé. On est vaccinés, mon mari et moi, depuis longtemps. Les deux doses, aucun symptôme. J'ai jamais eu la COVID de ma vie. Finalement, le lendemain, à midi, j'ai reçu mon test, que là, tout comme par hasard, il était plus positif, c'était négatif. J'avais eu aucun médicament, j'avais pris de l'eau puis du riz, puis tout d'un coup, mon test était beau. Finalement, pour sortir de là, elle a dit, ben là, tu vas devoir acquitter des frais, des services qu'on t'a donnés. Je me demandais c'était quoi comme les services que j'avais reçus, hein, parce que dans ma chambre, là, j'ai eu assez peur que j'ai couché la télé allumée, les lumières allumées, j'ai pas dormi pendant 24 heures. J'ai couché tout habillé avec mon sac à dos dans mes bras. Puis là, ben c'est ça, les services, j'ai dû payer. Là, elle est arrivée avec son téléphone, elle m'a montré une calculatrice, elle a dit, ben c'est 90 $ américains. J'ai dit, OK, j'ai ma carte, pas de problème. Elle a dit, non, on les cache. Ah. OK, là, j'avais 120 $ Là, j'ai dit, OK. Elle a dit, vous payez américain? J'ai dit, non, j'ai canadien. Ah, OK, oh non, canadien, c'est 160 $ J'ai dit, ben là, moi, j'ai 120. Elle a dit, OK, lady, je vais tout prendre ça. Parce qu'elle a tout pris ça. Là, ils m'ont donné un papier, puis je suis sortie de là.
Wow! Là, tu parles du cauchemar.
Cauchemar.
Là, il était parti pour une semaine et je comprends que les trois premiers jours, ils peuvent pas sortir de leur chambre d'hôtel, puis elle est littéralement kidnappée pour être amenée dans un pseudo-hôpital où on lui donne strictement rien, mais on lui fait payer la rançon.
Parce qu'elle a pas de preuve qu'elle a la COVID, mais on lui dit qu'elle l'a.
Et elle ne l'a pas. Et y a jamais le test n'a jamais été validé. C'était une fausse réponse de test.
Mais ils sont allés la chercher dans son resort. C'est ça qui était épeurant. Parce que beaucoup de Québécois pensent qu'une fois qu'ils sont dans le resort, ils sont en sécurité.
Non. Puis même, apparemment, ce qu'elle me disait, là, les correspondants, tu sais, eux, que quand t'arrives dans le tout inclus, t'as quelqu'un d'Air Canada dans le tout inclus qui s'occupe un peu de ton voyage parce que t'as acheté un forfait. Même lui avait l'air louche. Parce qu'elle, quand ils ont eu la petite rencontre au début, elle lui a demandé si on a la COVID, comment ça se passe. Elle a demandé deux fois. Pas de réponse. Il répondait pas, il ignorait la question. Comme s'il y avait de quoi de louche d'organiser avec des... Je sais pas, tu sais, je veux pas me prononcer sur Air Canada.
Est-ce qu'ils ont quand même pu profiter de 3 jours dans un resort raisonnable?
Non. La première journée, le lundi, là, ils ont profité le matin, après-midi, mais dès le soir, ça a été la première fois qu'ils ont cogné puis qu'ils ont dit, madame, vous êtes positive. Puis après, elle, quand elle est revenue, elle était pas bien, ils sont repartis vers le Québec. Là, c'est assez.
Puis peut-être qu'il y a un flag qui a été levé aussi quand elle a posé la question, qu'est-ce qui se passe si on est positif? Là, à ce moment-là, t'as la personne de l'autre côté qui fait comme, ah, elle sait pas comment ça marche, hein? Bon, on va y apprendre. Puis si elle sait pas, elle connaît pas non plus ses recours.
Mais comment Cuba avait la réputation d'être un endroit où on était très en sécurité? C'est pas un endroit où on se faisait rançonner, attaquer, etc.
Oui, mais on l'a entendu hier avec le professeur Arsenault, avec Éric Arsenault. La mentalité a changé à Cuba.
Ouais.
On est rendu avec des gens dans la trentaine qui ont vécu rien d'autre que le communisme et pour qui ça ne fonctionne pas, sauf qu'il faut que tu survives pareil. Puis l'être humain, quand il est en situation de survie, c'est comme un animal attaqué dans le coin d'un mur. Là.
Ouais.
Et tu fais ce que tu as besoin pour être capable de manger.
Mais c'est pas...
Avec ce que tu viens de nous faire entendre, de nous raconter, là, pour moi, c'est clair que Cuba n'est plus une destination où l'on peut aller de façon raisonnable.
Non, c'est pas la place à aller en ce moment, là. Elle a vraiment vécu l'enfer, puis même son mari, c'est quand même triste, il est resté dans la chambre pendant 3 jours. Il avait le bras dans le plâtre.
Pourquoi il avait le bras dans le plâtre?
Sûrement un accident avant de partir
en voyage. Avant de partir, OK.
C'est ça. Il avait le bras dans le plâtre et il pouvait même pas couper sa nourriture. Il était pas capable de se laver parce que, tu sais, quand t'as le bras dans le plâtre, t'as moins de fonction. Il était là, en tout cas, ça n'a pas de bon sens, puis elle ne voulait pas embarquer dans l'ambulance. Elle l'a dit 3 fois, j'embarque pas. Ils l'ont forcée à rentrer.
Elle a été littéralement enlevée.
Oui, oui.
Elle a été enlevée, amenée de force dans un endroit où, pour être libérée, il a fallu qu'elle donne tout l'argent qu'elle avait sur elle.
Et là, finalement, ce qui se passe, c'est qu'elle essaie de se faire rembourser son voyage, la totalité de son voyage. Ça n'a pas de bon sens. C'est très difficile de se faire rembourser. Elle a perdu 400 $ pour plein de tests COVID. Là, je vous parlais tantôt du frais de, dans l'hôpital, elle a donné 120 $ canadiens. Mais c'est pas juste ça. Elle a payé des taxis pour te rendre dans cet hôpital-là. Donc, il y a peut-être 400-500 $ de frais de kidnapping, en vrai. Donc, j'espère qu'elle va se faire rembourser. C'est pas drôle.
Là, il y a quelqu'un qui dit, regarde, vous avez voulu voyager, assumez, on le dit de pas voyager. Oui, mais pas voyager, mais actuellement, là, Cuba, c'est clair, clair, clair que ce n'est plus une destination attirante.
C'est ça, parce que voyager, tu sais, aller dans une destination qui est historiquement pas fiable, je dis pas.
Cuba est en train de s'haïtiser.
Oui. Ben vois-tu, il y a quelqu'un qui écrit au 25226, je me souviens d'une phrase d'un journaliste qui couvrait la rébellion en Roumanie et en Yougoslavie sous la dictature. Les dictateurs doivent se méfier d'un peuple qui a froid et qui a faim. Mais à Cuba, il fait chaud, mais le peuple a faim. Et quand on a faim, malheureusement, les gens changent. Et ça se répercute aussi sur le comportement que tu as sur les touristes. Ouais. C'est des vaches à lait côté argent.
Ouais. Il y a quelqu'un qui dit, c'est quoi l'idée d'aller à Cuba? Ils ont tellement faim qu'il n'y a plus de chien dans les rues.
Mmh.
Puis quelqu'un qui dit les gens sont trop pressés d'aller en voyage, c'est trop tôt. Bon, moi j'attends pas avant février si c'est sécuritaire. Écoutez, moi aussi je suis pressé d'aller en voyage. Puis mais j'ai renoncé à l'Europe là, je devais partir après avoir fini de travailler ici. Mm-hmm. J'ai renoncé à l'Europe.
Tu vas pas à Compostelle?
Non, pas cet automne.
Okay.
Je pense qu'en Europe c'est pas raisonnable. Je lorgne encore vers les États-Unis. Mais je ne pense pas que ça va ouvrir le 21 août. Jean Charest a laissé entendre que ça pourrait ouvrir le 21 septembre. Là, vous allez me dire, qu'est-ce que Jean Charest vient faire là-dedans?
Oui, qu'est-ce que Jean Charest vient faire là-dedans?
C'est que Jean Charest négocie, notamment, il représente certains États américains.
OK.
Et il est dans les tractations. Et il a plus évoqué la date du 21 septembre pour l'ouverture des frontières américaines. Fait que j'ai comme l'impression que la dame qui nous dit c'est trop tôt pour voyager, ça me fend le cœur de vous le dire, mais vous avez probablement, hélas, raison. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que le Nouveau-Brunswick a arrêté de se prendre pour un État dans l'État, là.
Ah!
Puis ils ont levé les barrières à l'entrée du Nouveau-Brunswick maintenant.
Attends, moi, je regardais pour aller en Nouvelle-Écosse. Ça, c'est différent, on s'entend?
Oui.
Parce que les provinces maritimes... Ouais, Nouveau-Brunswick, t'es correct, mais Nouvelle-Écosse...
Ils viennent de lever aujourd'hui, je pense, okay, les barrières frontalières, le Nouveau-Brunswick.
Mais les autres provinces maritimes, c'est toujours compliqué.
Mais le Nouveau-Brunswick, c'est parce que c'est le chemin pour aller aux Îles-de-la-Madeleine.
C'est ça, ça vient compliqué.
Puis c'était compliqué. Moi, j'avais prévu d'aller aux Îles-de-la-Madeleine, voyage qui a été annulé encore.
On rit. Et c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle.
Non, non. Puis il fallait que j'aie une permission de traverser le Nouveau-Brunswick, mais pas le droit de m'arrêter pour l'aller, pour le retour, puis que je montre patte blanche avant de... Puis si j'arrêtais, puis que je rentrais dans un commerce, 15 jours de confinement.
Mais voyons.
Il fallait...
Dans le bois? Quelqu'un dans le bois?
Ben, ça faisait partie... Mais moi, je partais avec une petite toilette portative.
Oh, intelligent.
On est équipé, on ne l'est pas, là.
Un petit porte-à-pâté.
Non, c'est bien fait, cette petite toilette portative-là. C'est génial. Bon.
Il y a quelqu'un qui nous écrit au 25226. Je comprends pas, je me suis planté en scooter à Cuba, j'ai rien payé et j'ai été soigné gratuitement.
Exact.
Dans les trois derniers mois, monsieur, madame?
Non, exact. Mais c'était comme ça, Cuba.
Ouais?
Et t'étais soigné de façon remarquable.
Ouais?
Sauf que ça, c'est un pays qui a chié de travers depuis 3-4 mois. Puis là, maintenant, ce n'est pas le Cuba que vous avez connu. Mmh. Il est 14h.